Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Précipité par le président Nicolas Maduro, boycotté par l'opposition. La présidentielle débute dans 2 heures au Venezuela. Reportage chez les pros et anti-chavistes à Caracas dès le début de ce journal. En Italie, la Ligue d'extrême droite se prépare à rentrer au gouvernement. Elle consulte aujourd'hui encore ses militants sur l'alliance anti-système forgée avec les populistes du mouvement 5 étoiles. En Iran, l'Europe détaille ses mesures pour contrer un retour éventuel de sanctions commerciales américaines. Et puis en France, comment les services de renseignement respectent-ils leur nouveau cadre juridique renforcé par les lois de 2015. C'est ce qu'on verra avec le rapport de la commission qui contrôle nos services de renseignement. Il vient d'être rendu pour l'année 2017. Un chaviste dissident, un pasteur évangélique. Voilà à quoi se résume l'opposition à Nicolas Maduro. Ce dimanche, le président vénézuélien remet sans grand danger son poste en jeu dans une élection anticipée et boycottée par ses véritables opposants. État des lieux des forces en présence ou en absence dans ce scrutin, c'est un reportage à Caracas de Julien Gonzalez.
Jeudi 17 mai, Nicolas Maduro s'adresse à ses partisans à Caracas pour son dernier meeting. Des milliers de personnes sont rassemblées sur l'avenue Bolivar, qui reste cependant loin d'être complètement rempli. Avec son t-shirt Maduro président, José Barreto est venu soutenir l'actuel chef de l'État.
Nicolas Maduro a dû assumer le poste de président, ce qui est loin d'être facile. Les attaques contre lui ont été constantes depuis le début. Mon vote, c'est surtout celui de la continuité de la révolution. Et je vais donner un vrai vote de confiance à Nicolas Maduro.
Face à Nicolas Maduro, Henry Falcón fait figure de principal adversaire de l'actuel chef de l'État. À la conquête du vote d'une partie de l'opposition et des chavistes déçus, il promet de rassembler les Vénézuéliens s'il est élu.
Le gouvernement présente les signes d'une dictature. Nous, nous proposons un gouvernement d'union et de transition nationale. Ce doit être un gouvernement qui représente les universités, mais qui doit aussi être constitué de chefs d'entreprise, de travailleurs et d'hommes politiques. Voilà ce que doit être le gouvernement.
Un discours qui est loin de convaincre Isabel Guillén, opposante à 100% au gouvernement chaviste. Elle a manifesté plusieurs fois l'an dernier pour demander le départ de Nicolas Maduro, mais pour elle, pas question de voter ce dimanche, faute de garanties électorales.
Je ne veux pas valider cette farce. Les résultats sont connus d'avance. Ils vont dire que Maduro a gagné. Je n'ai aucune confiance dans le Conseil national électoral. Ce sont des tricheurs et la majorité est aux ordres du gouvernement. Et les deux adversaires face à Maduro ont été choisis par lui-même. Je suis désabusée, triste. Je ne vois pas comment sortir de cette situation.
Beaucoup de Vénézuéliens pourraient eux aussi décider de rester chez eux ce dimanche. Selon plusieurs sondages, l'abstention pourrait en effet avoisiner 40 à 50%.
Le reportage du correspondant de Radio France Internationale, Julien Gonzalez, à Caracas pour France Culture. En Italie, c'est demain que le mouvement populiste 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite devraient soumettre au président Mattarella leur gouvernement de coalition prétendument anti-système. Mais ce dimanche, la Ligue continue de consulter sa base militante. Un millier de bureaux de vote ont été installés sur les places des villes italiennes. Un reportage à Rome d'Olivier Tosseri.
Sous une tente verte, aux couleurs de la Ligue, quelques militants continuent à discuter après s'être prononcé sur le contrat de gouvernement avec le mouvement 5 étoiles. Certaines promesses, traditionnels chevaux de bataille du parti de Matteo Salvini, telles que la lutte contre l'immigration et une baisse radicale des impôts, suscitent l'adhésion immédiate. D'autres font naître une légère appréhension, notamment chez Francesca.
La chose qui me fait un peu peur, c'est le revenu citoyen, parce que j'espère que ça sera quelque chose de positif et pas une incitation à rester assis chez soi, à ne rien faire.
Pour Chiara, peu importe les doutes qu'elle peut nourrir sur le nouvel allié de son parti, pourvu que son leader arrive au pouvoir.
Je me méfie du mouvement 5 étoiles. Plutôt qu'un gouvernement technique fantaisiste du président de la République, je préférerais toujours Salvini.
Mouvement 5 étoiles ou Ligue, les deux partis anti-système affirment être les porte-parole de la rue dans leur contrat de gouvernement. Un des chefs du mouvement 5 étoiles l'a même demandé à leurs députés, écoutez ce que disent les gens dans les bars et pas les banques.
Et petit rappel, dès vendredi, les militants du mouvement 5 étoiles avaient eux validé à plus de 94% cet accord de gouvernement. La guerre commerciale n'aura pas lieu entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays publiaient la nuit dernière un communiqué dans lequel ils entérinent les résultats de leur dernière négociation. Pékin s'engage à augmenter significativement ses importations de produits américains pour réduire son déficit commercial. Les deux pays promettent de ne pas augmenter leurs droits de douane. Faut-il un nouvel accord pour sauver la accord sur le nucléaire iranien. Dans la presse allemande, on apprend ce matin que des diplomates européens, chinois et russes planchent en ce moment sur un texte qui permettrait de mieux contrôler le programme de développement de missiles longue portée de Téhéran. Programme balistique qui était exclu de l'accord de Vienne déchiré la semaine dernière par Donald Trump. Ce serait une manière de convaincre le président américain de revenir à la table des discussions internationales. Mais pour le moment, l'Iran refuserait de mettre ses missiles balistiques dans la balance. En attendant, le commissaire européen à l'énergie, Miguel Arias Cañete, est à Téhéran ce week-end. Hier, il a détaillé les mesures que compte prendre l'Union européenne pour contrer un éventuel retour des sanctions commerciales de Washington sur l'Iran, mesure accueillie pour l'instant avec scepticisme par les Iraniens, Lakshmi Lotha.
La balle est dans le camp de l'Union européenne, a résumé le vice-président iranien. Lourde tâche pour le commissaire européen à l'énergie, premier responsable occidental à être reçu à Téhéran depuis la décision américaine de se retirer de l'accord. Il a présenté des solutions pratiques pour permettre à l'Iran de continuer ses ventes de pétrole et de gaz, poursuivre ses transactions bancaires et maintenir les liaisons aériennes et maritimes. L'euro va devenir la devise pour les transactions sur le pétrole iranien. La Commission européenne a par ailleurs lancé vendredi une procédure pour activer la loi de blocage. Cette loi, jamais appliquée depuis sa création en 1996, permet aux entreprises et tribunaux européens de ne pas se soumettre à des réglementations sur des sanctions prises par des pays tiers. L'exécutif européen a également lancé la procédure pour permettre à la Banque européenne d'investissement de soutenir les investissements européens en Iran, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Mais le commissaire à l'énergie a reconnu que la tâche ne serait pas facile. Nombre d'entreprises européennes engagées en Iran parlent de quitter le pays pour éviter les conséquences des sanctions américaines. Les banques craignent notamment de perdre leur licence aux États-Unis.
Lakshmi Lotha à Bruxelles pour France Culture. Une attaque meurtrière au couteau dans le centre de Paris il y a une semaine, un projet d'attentat déjoué annoncé vendredi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail de nos services de renseignement reste au cœur de l'actualité en France. Qu'il soit salué ou décrié, l'action de ces services de renseignement fait l'objet chaque année d'un contrôle exercé par une commission nationale. Commission qui vient justement de rendre son rapport pour l'année 2017. On y apprend que 21 000 personnes ont fait l'objet l'an passé d'une mesure de surveillance par les policiers du renseignement. Des moyens d'enquête renforcés par les lois votées en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Un arsenal qui n'est pas remis en cause par la commission, Sophie Parmentier.
Cette commission composée de hauts magistrats et de parlementaires a effectué l'an dernier plus de 130 contrôles au sein même des services de renseignement ainsi que de nombreuses vérifications en ligne et aucune irrégularité sérieuse n'a été repérée, affirme Francis Delon, le président de la commission. Il estime que les policiers du renseignement respectent les lois de 2015 sans entourloupe, dit-il.
Dans les constats que nous avons faits depuis octobre 2015, nous n'avons détecté aucune irrégularité qui témoignerait d'une volonté des services de frauder et de contourner la loi. Je pense que ce que les deux lois de 2015 ont fait, c'est qu'elles ont donné une marge d'action plus importante aux services et la contrepartie à cette marge d'action plus importante, ce sont des contrôles plus importants. Et les services ont accepté cette contrainte parce qu'ils y trouvent précisément la marge d'action supplémentaire.
Sur 21 386 personnes surveillées au moins une fois en 2017, près de la moitié, presque 43% l'ont été au titre de la prévention du terrorisme. Surveillance avec une balise sur une voiture par exemple ou via des écoutes téléphoniques. Mais ce sont surtout les demandes de géolocalisation en temps réel qui se sont multipliées l'an dernier avec un bond de plus 55%.
C'est une mesure du plan anti-tabac voulu par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. À compter de ce dimanche, les patchs à la nicotine sont remboursés à 65% par la Sécurité sociale. Ça vient compléter le remboursement déjà des gommes nicotiniques. La plupart des études de tabacologues confirment que c'est bien l'association de ces deux produits qui donne les meilleurs résultats pour arrêter de fumer. Le rideau tombe sur le 71e Festival de Cannes, cérémonie de clôture et palmarès hier soir avec la Palme d'Or décernée à un grand habitué de la croisette. Le japonais Kore-eda est sacré pour son film Une affaire de famille. Le jury présidé par Cate Blanchett a également attribué une palme d'or spéciale à Jean-Luc Godard. Le prix du jury va à la réalisatrice libanaise Nadine Labaki pour Capharnaüm et le grand prix à Spike Jones pour son film BlacKkKlansman. La météo, enfin, la journée commence sous le soleil mais le temps va se dégrader sur le sud et l'est du pays dans l'après-midi avec des orages de grêle possiblement qui vont se former sur les Alpes et les Vosges avant de descendre sur les plaines. Côté côté température 15 à 22 degrés ce matin. Ça devrait rester sensiblement la même chose dans l'après-midi.